Bonjour à tous, bonjour famille. Alors, comment vous êtes? Vous êtes contente? Ah, c'est bien ça. On est devant le Seigneur. Il dit qu'il faut nous réjouir tout le temps. Bon, c'est moi aujourd'hui qui prends la prêche. Aujourd'hui, là. Et voilà, je me suis préparé pour ce moment-là. Je ne m'attendais pas voilà, à prêcher trop rapidement ici dans cette église. Mais je suis content. D'abord, je remercie à Dieu pour ces privilèges, pour l'honneur, voilà, de partager sa parole. Et je profite aussi, parce que je suis aussi, aujourd'hui, comme je dis, il y a des détails qui donnent Dieu. Aujourd'hui, ma famille aussi, ma belle-mère aussi, qui sont ici, ensemble. Et là, c'est un miracle. Dieu le sait pourquoi je dis ça. Bon, on va commencer, parce qu'on est venu pour écouter à Dieu. Moi, aujourd'hui, je vais toucher un sujet que je ne sais pas si vous l'avez entendu beaucoup, mais pour moi, c'est le message le plus important qui est dans la Bible. Et je vais toucher chaque étape entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je vais parler sur le royaume de Dieu sur la terre. On va prendre d'abord une vision globale. Qu'est-ce qui se passait avec l'humanité? Parce qu'on sait bien que dans Genèse, dans le chapitre 1 et 2, c'est presque la perfection de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu fait la création, l'homme, où il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de religion. Et si vous lisez à la fin de chaque jour de la création, il disait, Dieu vit, cela, c'était bon. Tout le temps, il disait ça, à chaque jour. Dieu vit que cela, c'était bon. Mais bon, c'est un mot hébreu, ça vient de Tov, Tow. Parce que moi, j'aime bien approfondir dans les Écritures. Il a dit qu'il faut sonder les Écritures. Ça veut dire quoi, sonder? Sonder, c'est-à-dire c'est chercher et aller. Moi, j'ai appris avant, quand je lisais Genèse, moi, je le prenais comme une histoire. La création, Adam et Ève, les créatures, les bêtes, les oiseaux, voilà. C'est comme une histoire. Mais il y a plus de choses qui sont cachées. Et moi, je vous invite à approfondir la parole. Et c'est pour ça que moi, je l'ai appris dans son étude biblique, dans des séminaires. Ça aide beaucoup. Je vous invite aussi à venir dans les études bibliques. À partir de septembre, ce sera les jeudis, tous les jeudis à 14h. C'est très important. Parce que là, ça aide pour grandir. Parce que pas simplement nous alimenter que les dimanches. Normalement, on doit lire la Bible tous les jours. Mais aussi, il faut y aller plus loin. Et pour ça, moi, je vous conseille ce que j'ai appris, parce que quelqu'un m'a appris pareil. Il faut prendre un dictionnaire. Comme les mots en hébreu, ou en araméen, ou en grec, parce que ça dépend. Et surtout, demander à l'Esprit Saint qui te guide. Parce qu'un théologue a plus de connaissances que nous. Mais ça veut dire que c'est ce que lui, il a appris. C'est Dieu qui doit le montrer ça. C'est l'Esprit Saint qui va nous montrer. Mais simplement, il faut le demander. Il faut prier. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je dis, Esprit Saint, prends le contrôle. Je voudrais que tu m'ouvres les yeux. Je arrive à comprendre ce que tu veux me dire. Et moi, je vais utiliser tous les outils. Un dictionnaire hébreu, un dictionnaire normal, français, l'Esprit Saint, et prier avant, surtout. Et je suis sûr que Dieu, il va vous parler. Parce que Dieu parle. La Bible, c'est le seul livre où l'auteur est présent avec vous. Parce qu'il est vivant. Comme ici, Tow, un mot hébreu, ça veut dire agréable, bon, excellent, riche, de grande valeur. C'est-à-dire qu'entre le 1 et le 2, comme je disais, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de religion, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas d'études bibliques, il n'y a pas d'adoration. Mais Dieu disait, ça c'était bon. Pourquoi? Je me disais, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faisait Adam et Ève? Il disait qu'Adam, il parlait avec Dieu. Il était de bonne sa présence. Ça c'est un privilège que, voilà, qu'ils ont eu, et nous aussi maintenant. Et à partir du chapitre 3 jusqu'à Apocalypse 21, comme l'homme a péché, voilà, maintenant c'est le plan de la restauration du royaume de Dieu. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que dans le chapitre 3 à Apocalypse 21, c'est le programme de réclamation pour nous remettre à la case de départ. Restauration. Dieu utilise beaucoup un préfixe. Et moi, ce préfixe-là, ça m'a changé ma vie, pratiquement. Moi, je ne faisais pas attention. Le préfixe « ré ». Mais moi, c'est pour ça que j'aime bien chercher les mots. Ça veut dire quoi, « ré » ? Préfixe exprimant la réitération. Le retour à un état antérieur. Il peut aussi indiquer un retour à un état initial. Ré, revenir à l'état initial. Faut retenir ça parce que c'est très important. C'est pour ça que notre avenir n'est pas devant nous. Notre avenir est derrière nous. Et je vous explique pourquoi. On a beaucoup de mots avec ré, de le préfixe ré. Revenir, récupérer. Ça, c'est bien, Philippe, il m'a bien aimé les mots. Racheter, renouveler, récompense, réjouir, recevoir, restauration, repentance, réconcilier. Il y a encore plus, mais je peux le plus utiliser dans la Bible. Revenez à moi et je vous racheterai. Et je vous récupérerai ce que vous avez perdu. Et je renouvellerai vos pensées. Et je vous réconcilierai avec moi. Et je vous récompenserai avec la vie éternelle. Et vous recevrez l'Esprit Saint. Et vous vous réjouirez. Si on peut résumer des mots comme ça, c'est ce qu'il dit. Tout la base de la Bible. Alors, comme je disais, parce qu'au début, comme on m'avait dit, quand je n'étais pas chrétien, parce que j'étais catholique au début, je ne savais pas par quoi commencer. Tout le monde a eu du mal, je ne sais pas, pour commencer à lire la Bible. On m'a dit tout le temps de commencer par la bonne nouvelle, ce que les quatre évangiles. Ouais, je commençais par là, normalement, oui. Mais après, je me demandais, il y a aussi l'Ancien Testament. Et comme je disais, je le voyais comme des histoires. Mais il y a beaucoup de vérités cachées sur l'Ancien Testament. Mais tout est complémenté. Et c'est pour ça que je me posais la question. Voulez-vous ou vous voulez savoir où vous allez? Alors, tu devrais savoir d'où tu viens. Dieu veut te donner ce que tu as perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On parle tout le temps du mot restauration. La restauration de quoi? D'abord, il faut savoir c'est quoi restauration. Et moi aussi, j'ai cherché tout le temps, parce que j'aime bien savoir, pour comprendre bien le message, la parole de Dieu. Déjà, restauration, ça veut dire remettre en bon état une chose dégradée. Rétablir plus ou moins dans son aspect original. Et nous, on parle de la restauration du royaume de Dieu. Mais c'est quoi un royaume? Parce que c'est important de comprendre le royaume. Je ne sais pas si tout le monde comprend c'est quoi un royaume. Un royaume, il a trois éléments très importants. Il y a un roi, il y a un royaume, et il y a une famille royale. Trois éléments importants. Et comme je me disais, wow, mais quel est le plan pour nous? Pourquoi Dieu nous a créés? C'est quoi son but? Parce que nous, on connaît les appels, c'est personnel. Un appel, c'est face to face, c'est personnel. Mais le plan, c'est pour tout le monde. Et pour comprendre ça, je me suis allé à l'Ancien Testament, pour commencer par Genèse. Et voilà, on va lire Genèse 1, 26. Qu'est-ce qu'il dit, Genèse 1, 26? Voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Wow. J'ai commencé par ce verset-là. La première fois que j'ai commencé par ce verset-là, quand je lisais Genèse, j'ai pris presque 3 jours pour comprendre tout ça. Et je dis, balader toute la Bible pour comprendre que ça. Parce que je me disais, au début, puis Dieu dit, faisons. Il parle en pluriel. Faisons. Je me dis, pourquoi il parle en pluriel? Pourquoi il ne dit pas que je vais créer l'homme à mon image? Non, mais il dit, faisons. Et pourquoi? Parce que Dieu, en hébreu, dans ce contexte, c'est le mot Elohim. Elohim, c'est un mot en hébreu. C'est un mot en pluriel et à la fois en singulier. Parce que Dieu parle, il dit faisons. Faisons, c'est un. Dieu est un, mais à la fois, il est beaucoup. Donc Dieu, il y a combien de personnes? 3. Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il dit, c'est pour ça qu'il dit faisons. C'est les 3. Et c'est à ce moment-là que je commence à comprendre des petites choses. Je me dis, waouh! Et après, il dit faisons à l'homme. Homme. Encore, je commence à chercher un hébreu. C'est le mot ish. A-I-S-C-H, si je me rappelle bien. Et pareil, c'est un mot en pluriel, en singulier. L'hébreu, c'est un. Il ne faut pas beaucoup l'hébreu. Il a des mots, comme je disais, il a des singuliers, il a des pluriels, mais il y a aussi qu'il dit le contraire, c'est pour dire qu'il est bon, mais à la fois pour dire que ce n'est pas bon. Il parle aussi en mode contraire. C'est incroyable, ça dépend du contexte. C'est pour ça qu'il faut y aller aussi dans les mots originaux. Et en plus, Ish, ça veut dire l'homme, il a créé, en hébreu, c'est espèce. Il a créé une espèce qui c'est l'humanité. Alors, et ensuite, il dit, l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme à notre image. Je me dis image. Image, pareil, j'ai cherché le significat. En hébreu, dans le dictionnaire, il s'est marqué caractéristique, nature, qualité spirituelle. Alors, caractéristique, nature, si on commence à traduire le verset, il dit alors, faisons à l'homme avec notre caractéristique, notre nature et notre qualité spirituelle. Ensuite, le mot ressemblance. Ressemblance ne veut pas dire que tu lui ressembles. Ça veut dire qu'il fonctionne comme. Alors, Dieu dit, créons une espèce qui me ressemble et qui fonctionne comme moi. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui nous a créés. Nous on est nés à partir de lui. C'est lui qui a soufflé et c'est lui qui nous a donné une partie de lui. Et nous, c'est ce qu'on a justement. C'est son image et son ressemblance. C'est-à-dire qu'on a ses caractéristiques, sa nature, qualité spirituelle et on fonctionne comme lui. On va prendre un exemple pour comprendre ça. Imaginez-vous ici une bouteille d'eau. Ça, c'est Dieu, la source. Et lui, de lui, il a sorti de l'eau et nous, c'est le verre. Il nous a dans un verre. De lui, on est sorti. Et nous, c'est le verre. L'eau qui se trouve dans le verre, il a les mêmes caractéristiques de l'eau de la bouteille. Il a la même fonction comme de l'eau de la bouteille. Parce que nous, on est sorti de lui. Il faut comprendre ça parce que ça va être très, très, très important de savoir pourquoi. C'est pour ça que Dieu ne vous demande jamais quelque chose qu'on ne peut pas. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous. Il ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Parce qu'il nous connaît. Il sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, Dieu n'a pas de sainteté. Dieu n'a pas de sainteté. La Bible dit, Dieu est saint. C'est lui. C'est lui saint. Ce n'est pas ce qu'il a. Lui, c'est le tout. C'est la source. C'est différent que je dis, Yesa, à qui je dis, c'est quoi la source? C'est lui qui donne tout. C'est de lui, ça vient la sainteté. Une chose, c'est de dire que tu as la sainteté, et une chose, c'est qu'il est saint. Ça, c'est différent. Parce que lui, c'est la source. Et lui, il est saint. Il y a des personnes qui, des fois, ont prié pour la sainteté. Et Dieu ne va jamais te dire de prier pour la sainteté. Dans la Bible, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il dit? Dans 1 Pierre 1, 16. Vous serez sainte, car je suis sainte. Vous serez sainte, parce que je suis sainte. Nous, on est le Fils. Tu es sainte, parce que je suis le Père. Tu es mon Fils. Tu es pareil que moi. Tu es sainte. Tu dois être sainte, parce que je suis sainte. Je l'ai mis en toi. Je t'ai mis mon esprit. Je t'ai mis ma caractéristique, mes fonctions. On n'a pas, faut pas prier pour la sainteté. C'est ta nature. La nature, voilà, qu'on a mis. Mais nous, on s'éloigne de Dieu parce qu'on pêche. Et c'est à ce moment-là qu'on pêche. On est écarté de Dieu. Mais on a tout ça. Dieu nous a donné. Nous, on est au pluriel aussi. Comme Dieu aussi. On est un corps. Esprit. On est trois personnes aussi. Moi, je suis venu ici plusieurs. Mon corps, mon âme, mon esprit. Pareil. Et après, qu'est-ce qu'il dit dans le Genèse? Il dit et qu'il domine. Qu'il domine. Qu'est-ce que ça veut dire, domine? Moi, je cherchais domine. Pareil, le mot en hébreu, ça veut dire raudao. Raudao, ça veut dire royaume, gouverner, dominer. Il nous a créé. Voilà, c'est la fonction qu'il nous a dit. Il nous a dit de gouverner sur la terre, de dominer la terre. Et il nous a donné un royaume. Ça, c'est très important. Ça, c'est le plan de Dieu. Il nous a donné un royaume. Il nous a dit de dominer. Mais nous, l'homme, qu'est-ce qu'il fait maintenant? On ne le sait pas, mais l'homme, il essaie de conquérir le monde, de dominer les autres. Parce que c'est notre nature. Mais il est mal destiné. On l'utilise pour des mauvaises choses. Mais on ne sait pas, parce que le monde, il veut dominer le monde, il veut conquérir, explorer, y aller à la Lune, trouver les autres planètes. Parce que c'est notre nature. On voudrait dominer, on voudrait conquérir le monde. On ne se rend pas compte, mais c'est notre nature. Parce que Dieu nous a dit de dominer la terre. Mais le mot raudao, ça veut dire royaume. Il nous a donné le royaume sur la terre. Alors, nous avons été créés pour être un gouverneur. Avec la capacité de diriger et de dominer. Et dominer, c'est notre nature. Diriger est notre nature. Dieu a donné l'homme. Dieu a créé à l'homme et la femme pour dominer. Et le mot domination vient aussi de l'hébreu malkout, qui signifie royaume, comme j'avais dit tout à l'heure. Ok, donc si on lit le verset dans le texte original, ça veut dire comme ça. Nous libérons de nous une espèce appelée homme, avec notre nature, avec nos qualités, pour qu'elle fonctionne comme nous, pour qu'elle règne sur la planète Terre. Dieu n'a donné jamais, à Adam une religion. Il a donné un royaume. La religion ne pourra jamais te restaurer. Adam a reçu un royaume de Dieu. Quand Adam a échoué, il a perdu ce que Dieu lui avait donné. Il a perdu le royaume, le contrôle de la terre. Il a perdu le royaume des cieux sur la terre. Si on veut savoir ce que l'homme a perdu, il faut étudier ce que Jésus a apporté quand il est venu sur la terre. Jésus est venu sur terre pour restituer à l'homme ce qu'il a perdu. Jésus n'a jamais apporté de religion sur terre. Quand nous lisons les prophéties de l'Ancienne Alliance sur le Messie, toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance, il ne s'agit pas de religion. Elle parle de la restauration de l'influence des gouvernements du ciel sur la terre, à travers l'homme. Le royaume des cieux sur terre à nouveau. On va y aller dans Esaïe 9, 6, 7. On va voir qu'est-ce que sont parlé les prophètes. Donc Esaïe 9, du verset 6 au 7. Je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, rappelez-vous que domination c'est gouverner le royaume, et la domination repoussera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Là, il dit que Jésus vient. Avec quoi? Avec la domination sur son épaule. Verset 7. Donné à l'empire de l'accroissement et un paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il est venu pour dominer? Il dit qu'il va dominer et créer un empire qu'il va arrondir. sur la terre et qu'il n'aura pas fin, il n'a pas de limite son royaume. L'augmentation de son gouvernement, l'expansion de son empire ou de son royaume n'aura aucune limite. Il est venu ramener sur terre ce que nous avons perdu, le royaume et le gouvernement. Si on voudrait encore être sûr, on va voir ce qu'il dit Daniel maintenant. Daniel dans le chapitre 7, verset 27. Notez-le bien. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Après, ça c'est plus important. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Seront donnés à qui? Au peuple des saints. C'est qui le peuple des saints? C'est nous. Là, il le dit clairement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais là, il dit le règne, la domination. Il parle de Jésus qu'il va nous donner. Et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son rey est un rey éternel. Et tous les dominateurs le serviront et l'obéiront. Qu'est-ce qu'il ramène, Jésus-Christ? En plus, il nous donne à nous. Ce n'est pas lui qui reste avec le royaume. Il dit qu'il va le donner au peuple des saints du Très-Haut. C'est à nous qui. C'est pour ça que lui. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il disait Jean-Baptiste? Pour quand il a préparé le chemin? Répondez-vous, parce que le royaume de Dieu s'approche. Dieu et Jésus-Christ, il ramène le royaume. C'est ce que nous avons perdu. Ensuite, on va y aller maintenant dans le Nouveau Testament. On va y aller dans Matthieu 4, verset 17. Et Jésus aussi, il faut savoir qu'il ne s'est jamais qualifié de prophète. Des fois, on se trompe. On l'appelle prophète. Mais il faut savoir c'est quoi, ça veut dire quoi, prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui part de la part de Dieu. C'est un représentant de Dieu sur la terre. Mais Jésus, ce n'est pas un prophète. C'est lui l'autorité. C'est lui qui venait accomplir les prophéties. C'est différent. Le prophète disait, quelqu'un va venir, voilà, il parlait de quelqu'un qui va naître, voilà, un bébé est né qui s'appelle Emmanuel, il va nous sauver, voilà, il va mourir pour nous. Il parlait, le prophète, ça. Mais Jésus-Christ, il n'a pas parlé de prophétie. Il est venu accomplir, c'est ce que le prophète disait. C'est différent. Un prophète parle, il représente une autorité, il parle pour l'autorité. Mais Jésus-Christ, c'est la même autorité. Emmanuel, ça veut dire Dieu qui est mis sur un homme. C'est Dieu même. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, dans Matthieu 4, 17. De ce moment, Jésus commence à prêcher. Ce contexte de Matthieu 4, c'est quand après Jésus venait d'être tenté dans le désert. Il avait jeûné 40 jours. Il était tenté, mais il a vaincu la tentation. Et il venait rempli de Saint-Esprit. Et là, c'était la première prêche qu'il faisait au monde. De ce moment, Jésus commençait à prêcher. Et là, la première prêche qu'il fait au monde. C'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est la prêche. Qu'est-ce qu'on est en train de prêcher au monde? C'est pour prêcher le royaume. Mais répondez-vous, dit. Répondez-vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est repentir? Parce que moi, comme j'étais catholique, on m'avait dit que c'est repentir, c'est dire oui, ok, j'ai fait du mal, j'ai péché, je commence à pleurer, on reçoit trois Ave Maria, doit Père Notre, et on dit, tu peux partir, c'est bon. Mais après, pour recommencer à faire la même chose, on boucle. C'est pas ça, c'est repentir. Ça, on l'appelle avoir des remords. Mais c'est pas la vraie repentance. Repentance vient d'un mot grec. Et repentance, ça veut dire changer ta façon de penser. 180 degrés. Changer ta façon de penser. Parce que nous, on a été formatés par notre culture. On a été appris une chose. On vit dans une démocratie. On a le droit à avoir un vote pour savoir qui va être le président. Avec Jésus, c'est un royaume. C'est le royaume qui dit, c'est comme ça. Et le peuple n'était rien d'où. Mais, qu'est-ce que dit la parole? Que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Différent à la volonté du monde, des royaumes du monde. Changez votre façon de penser. Changez la façon dont vous avez été formé à penser. Jésus dit à l'humanité, change ta façon de penser. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est revenu. Il y a un verset qui dit que chaque jour, Dieu nous renouvelle nos pensées. Chaque jour, il renouvelle nos pensées. Alors, dans Matthieu 4, 23, on continue dans Matthieu. Là, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il continue à enseigner la bonne nouvelle du royaume. Le royaume se trouve partout. On avait vu la façon de prêcher. Et maintenant, on va voir la façon de prier. Parce que le royaume, il est partout. C'est l'alpha et l'oméga. Il est dans tout, ancien et nouveau testament. Les disciples le demandent à Jésus, Maître, comment on doit prier? Et Jésus répond, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sacrifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit? Priez pour que le royaume vienne. Où? À la terre. Il ne dit pas qu'on prie pour que la terre aille au ciel. Il dit que le royaume vient au ciel. Et que des fois, nous, on est frustré, on est fatigué du monde. J'ai entendu beaucoup de personnes, mais moi, je l'ai fait. que des fois on peut plus, qu'on est fatigué, il a le travail, les dettes. Et des fois on dit, oh, j'aimerais bien que Dieu me ramène pour être tranquille là-bas et me reposer, être avec eux, avec lui au paradis. Mais Dieu te, et Jésus-Christ te dit, faut pas prier comme ça. Faut pas que tu pries pour aller au ciel. Il te dit, prie pour que le ciel vienne sur la terre. Pour que le royaume vienne ici. Pourquoi? Pourquoi prier le contraire? Parce que nous, on est contents simplement avec le salut. On est resté tranquille avec le salut. Le salut, ça a été donné par grâce. Il ne faut pas faire d'effort pour avoir le salut. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, parce que tu fais des bons offres que tu es sauvé, non. Ça, ça a été donné par la grâce de Dieu. Mais il t'a dit une chose. Il nous dit, allez aux nations en baptisant avec l'Esprit. Qu'est-ce quoi aller aux nations? Pourquoi il a dit ça? Parce que nous, il voudrait récupérer le royaume sur la terre. Le royaume, c'est un pays. Nous, on est des ambassadeurs. Nous, on est des représentants des pays, des royaumes des cieux. Et lui, c'est ce qu'il dit. Allez, que le royaume vienne sur la terre. Nous, on doit justement y aller au monde pour récupérer le royaume. Pour y aller à chaque personne et dire, voilà, c'est le royaume ici, avec nos cultures, avec notre forme, notre façon d'être, avec nos valeurs, avec nos croyances. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça le royaume. Conquérir le monde. Aller aux nations. Il ne faut pas rester avec le salut. Il ne faut pas rester simplement avec le salut. Il faut conquérir le monde. Il faut y ramener le royaume à la terre. Matthieu 6, 25. Ça aussi, ça va changer notre façon de prier. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croise le lit des champs. Il ne travaille ni ne file. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, jaune de peau de foi? Je le mets en rouge pour retenir ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Des fois, on prie pour des choses qu'il ne faut pas prier. Des fois, on dit, ah, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau emploi. Ah, j'ai besoin de vêtements, j'ai des dettes qui payer. Moi aussi, j'étais comme ça. Des fois, une fois, j'avais besoin de gagner plus d'argent. Je m'avais proposé un travail à Paris. Et j'aurais gagné presque 40% de plus. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce qu'il fallait prier pour ça? Je ne l'ai pas fait. Parce qu'il avait ma famille, mes enfants. Mais il te dit, il ne faut pas prier pour ça. Parce que c'est ça qui va commencer à inquiéter on va tout le temps troublé par ça. On va dire, ah, alors, il y a la dette. Ah oui, c'est bien de prier, mais mes dettes augmentent. Je suis en rouge dans ma banque. Voilà, j'ai dépassé le montant qu'ils m'ont donné. Et on prie pour ça. Non, Dieu, je sais que tu es là, j'ai confiance en toi. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne faut pas prier pour cette chose-là. Dans le verset 32, Dieu nous dit de ne jamais prier pour ces choses-là. 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est qui les païens? Les païens, c'est des personnes qui ne sont pas croyants ou qui croient aux idoles. Il dit, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait notre problème. Il sait qu'on a besoin de manger. Il sait qu'on a besoin d'argent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront donnés par-dessus. Il ne faut pas prier pour ça. Il faut chercher Dieu simplement, il faut l'adorer. Il faut parler avec lui. C'est tout. Il faut pas pour la tête, pour les dettes, pour les impôts. Moi, j'étais comme ça. Et je l'ai vécu maintenant, cette semaine. J'avais beaucoup de dépenses à faire. J'ai surpassé, mais ça, mais je m'inquiète plus. Et on ne sait pas comment, mais Dieu a pourvu. Dieu ne sait pas comment, mais Dieu a pourvu. Avant, je priais pour ça, ah, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un petit travail, faire un astreinte, comme ça, je peux gagner plus. Je suis un astreinte aujourd'hui. Je devrais travailler aujourd'hui. Mais je sais qu'ici, il dit que c'est mieux un jour avec Dieu que mille ailleurs. Et c'est ici, voilà, qu'on va être restauré, qu'on va être purifié. Parce qu'on a des problèmes. Des fois, on pense que parce qu'on est des chrétiens, qu'on est immunisé. Qu'on est intouchable. Et c'est pas vrai. Dieu, il dit qu'on va passer des afflictions dans le monde. Mais la différence, qu'on n'est pas seul. Et il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous accompagner, pour nous réconforter, pour nous dire à quel moment, voilà, rappelle-toi de ma promesse. Faut pas voir les circonstances. Il faut avoir les promesses. Le monde te dit, voir pour croire. Dieu te dit, d'abord crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on était formaté à l'inverse. Le monde te dit, plusieurs chemins te ramènent au chemin de Mahoma. Je ne sais pas si ça existe en français. Et il a beaucoup de chemin pour y aller en espagnol, c'est comme ça, pour y aller au mont de Mahoma. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'un seul chemin, nous dit la Bible. Les autres chemins, ils vont t'écarter. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est Jésus-Christ qui nous va nous guider. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui qui nous donne l'accès. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et maintenant, on va voir les paraboles. On va y aller dans Matthieu 13, 10, verset 10 et verset 11. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire une parabole? Parce qu'il faut comprendre. Une parabole est une petite histoire conçue pour contenir une vérité. Mais les disciples, qu'est-ce qu'il dit ici? Les disciples s'approcheraient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Mais pourquoi? Il nous parle à nous clairement et au monde, il parle en parabole. Pourquoi? Simplement parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose dont tu ne veux pas. Il ne vous dira pas quelque chose que vous ne voulez pas savoir. Dieu ne vous montrera jamais quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il ne vous dira pas la vérité si cela ne vous intéresse pas. Il vous la cache jusqu'à que tu sois prêt à recevoir la révélation. Dieu se cache de ceux qui ne veulent pas le voir. C'est pour ça l'athée, il ne peut pas voir Dieu. Parce qu'ils ne sont pas toujours intéressés. Mais Dieu dit ces mots. Tu me trouveras. Tu me trouveras seulement si. Alors pourquoi elle dit ça? Tu me trouveras, mais si il est omniprésent, il est partout. Pourquoi elle dit ça? Tu me trouveras. Il faut le chercher. Et justement, on va dans Jérémie 29, 13. Si vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre corps. Dieu, elle est là. Mais il ne va pas venir vers vous. Si sa volonté, peut-être. Parce qu'il est grand. Son amour est plus grand que les lois. Mais si vous ne le cherchez pas, il ne va pas se montrer. Il dit clairement, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre corps. C'est une condition. Si vous ne le cherchez pas, si on vient ici que le dimanche, et lundi ou samedi, la Bible reste bien dans le coin, et la semaine prochaine, il est dans le même endroit, alors, on devient des religieux. Fais attention, le royaume, il faut chercher. Il faut avoir l'intérêt. Dieu, il est là. Il nous attend avec les bras ouverts. Mais nous, on doit faire le pas. Nous, on doit le chercher, l'adorer, lire ses paroles pour le connaître mieux. Les disciples lui expliquent, pourquoi vous cachez la vérité aux gens? Les foules ne s'intéressent pas au royaume. Elles veulent juste des poissons et du pain. Des fois, on ne vient pas pour le royaume, pour Jésus-Christ. On vient que pour les poissons et pour le pain. Des fois, on voudrait voir simplement des miracles. On l'a vu avec le peuple d'Israël. Ils ont vu des miracles. Ils l'ont vécu. Mais ils se sont retournés contre Dieu. Ils sont adorés après des idoles. Et quand ils avaient des problèmes, mais ils se sont dit, pourquoi on est sorti d'Égypte? Si on était bien, au moins là-bas, on mangeait bien. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais des fois, on vient que pour les poissons et le pain. Et puisque tu as décidé de me suivre et que tu as fait un effort, je vais te dévoiler les secrets du royaume. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils ont sacrifié sa famille. Ils ont laissé ses bateaux. Ils ont laissé ses affaires. Ils ont abandonné tout pour suivre qui? À Jésus-Christ. Et comme ils s'étaient intéressés à ce qu'il disait, ils l'ont cru. Dieu l'a révélé, les secrets du royaume. C'est pour les personnes qui veulent, qui sont intéressées, qui veulent le chercher. C'est pas pour tout le monde. En venant ici aujourd'hui, vous, en sacrifiant un dimanche, peut-être que vous pourrez être dans la plage, en faisant un barbecue avec la famille, mais déjà, Dieu ne va pas cacher le royaume de vous. Parce que vous avez fait un sacrifice pour être là. Pour écouter sa parole. Et aujourd'hui, le royaume est ouvert pour vous. Et Dieu, il vous aime toujours. Donc, Matthieu 13, verset 16, il dit: mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles s'entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous avons le privilège de savoir le royaume, les paroles, les prêches de chaque dimanche, les messages. On ne vous parle pas en parabole. Ici, on vous parle clairement. La fin du monde. Matthieu 24 parle de la fin du monde. J'ai entendu plusieurs prêches de dernièrement dans son église sur YouTube qui parle de la fin du monde. Ça fait longtemps. Depuis 2000, je me rappelle l'année 2000, il y avait tout le monde qui disait oh, c'est la fin du monde. Ils sont prêchés. Dieu, Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ va venir. La guerre d'Irak. Jésus-Christ va venir. Bin Laden. Jésus-Christ va venir. Le dernier, Gaza. Jésus-Christ est proche. C'est vrai qu'il est proche. On va lire qu'est-ce qu'il dit, la parole. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà. Il le demande, en grosso modo, quand il va venir, quand ça sera la fin du monde. C'est très clair. Jésus a répondu en premier aux choses qui ne mèneront pas à la fin du monde. Et ça, c'est dans le verset 7. Il dit: une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nation contre nation, il y aura des guerres, des famines, il y aura des crises économiques. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il dit clairement, c'est le commencement des douleurs. Il ne faut pas courir tout le temps quand il est en guerre. Ah, c'est la fin du monde. On va continuer pourquoi il dit ça. On passe au verset 14. Cette bonne nouvelle du quoi? Du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Viendra la fin. Que prêchons-nous au monde? Il dit, quand la bonne nouvelle des royaumes est prêchée, alors viendra la fin. La fin dépend d'un message, de prêcher le royaume de Dieu. Ce n'est pas un événement qui va déclencher la fin du monde. Moi, j'ai assisté à plusieurs séminaires, à plusieurs formations. Des fois, ça a duré 3 ans. J'ai appris beaucoup de ces études bibliques. Et même, j'ai obtenu des diplômes. Mais croyez-moi qu'il n'avait pas aucun cours qui parlait du royaume de Dieu. Aucun. Mais j'ai eu le diplôme. Mais jamais j'ai eu le vrai message. Jamais j'ai appris c'était quoi le royaume de Dieu. Parce que moi, c'est ce que je montre, c'est quelque chose global. Il a beaucoup de choses ancorées sur le royaume de Dieu. Mais jamais j'ai appris le véritable message que j'ai dû apprendre. C'est pour ça que je peux dire des fois c'est bien de faire ça, parce qu'il faut tout le temps apprendre. Ça c'est vrai. Il faut tout le temps apprendre parce que ça va nous servir tout le temps. Parce que Dieu nous dit de le connaître. La seule façon de le connaître, c'est de lire la parole. Mais je vous invite surtout à sonder la parole. Pas le lire simplement comme un livre. Cherchez. Là, il dit que c'est un trésor. La parole dit que c'est un trésor. C'est quoi un trésor? Pour un trésor, ce n'est pas facile de trouver. Un trésor, il faut le chercher. Il faut sonder pour trouver le trésor. Parce qu'ici, il a beaucoup de messages. Moi, je lisais avant Genèse comme des histoires. Simplement, Adam et Eve, la création, pas plus. Mais moi, j'ai pris deux versets de Genèse. Mais pour comprendre tout ça, j'ai dû faire tous les prophètes, j'ai dû lire tous les prophètes pour voir qu'est-ce qu'ils disaient. Parce que j'aime pas dire des choses. Parce que des fois, dans la Bible, c'est pas que dit le contraire, mais il y a des contextes. Avant, Jésus l'avait dit, par exemple, à tout le monde qu'il pouvait avoir plusieurs femmes parce qu'il fallait peupler le monde à ce moment-là. Mais après, Jésus dit qu'il faut avoir une seule femme. Il a laissé au début, mais ça ne veut pas dire qu'il a changé. C'est des contextes. Et pour, c'est pour ça qu'il faut lire. Lui, c'est l'alpha et l'oméga. À nous, il nous a donné Dieu, il connaît le plan. Dieu, pourquoi dit l'alpha et l'oméga? Parce qu'il sait la fin. Et il connaît le début. C'est pour ça que c'est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est partout. Nous, on a ses qualités aussi. On ne sait pas. Par exemple, un ingénieur, un architecte, il ne va pas construire avant qu'il finisse. D'abord, il a un plan. Il finit d'abord son plan. Après, il construit. On ne fait pas l'inverse. On ne peut pas commencer à construire Et après, on ne sait pas comment ça va finir. Dieu t'a tout préparé. Il n'a rien qui s'échappait de lui. Parce que si on dit qu'il y a quelque chose qui s'échappait de lui, alors il n'est pas parfait. Dieu, il est tout sous le contrôle. Le royaume, comme je disais, c'est un pays dirigé par un roi. Nous, par exemple, mais il y a quelqu'un qui l'a posé la question. Comment entrer dans le royaume des cieux? Il y a quelqu'un qui l'a posé la question. Comment entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce, par exemple, pour être français, c'est quoi? Pour être français, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut naître ici, en France, pour être français. Qu'est-ce qu'il faut être pour devenir un citoyen du royaume des cieux? C'est pour ça que Jésus l'a dit, il faut être à nouveau. Il faut naître à nouveau, pardon. Il faut naître à nouveau. Mais dans l'esprit. Parce que Nicodème l'a dit qu'il faut rentrer dans le ventre de ma mère. Non, il faut être à nouveau. Pour appartenir à un pays, il faut naître dans le pays. C'est pour ça qu'il a dit, il faut naître à nouveau. C'est pour ça qu'on est citoyen du royaume des cieux. On est fils de Dieu. Et nous, on appartient au royaume. C'est un pays. Nous, on est tombé au Pérou, vous en France. Mais il a dit qu'on n'est pas dans ce monde-là. Nous, on est étrangers. Et nous, on est citoyens du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on est tous unis et on a une seule famille grâce au sacrifice de Jésus-Christ par son sang. Et c'est ça que, voilà, qui nous fait devenir une famille. On est tous des enfants de Dieu. Et tous, on appartient au royaume des cieux. Si vous voulez être citoyen du royaume, laissez le roi prendre le contrôle de votre vie. Car dans un royaume, le roi est responsable du bon état de tous les citoyens. Car vous ne devez pas vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que tu vas t'habiller. Parce que le royaume est le contraire de la démocratie. Les affaires professionnelles des citoyens sont l'affaire des gouvernements. C'est pour ça, dans un royaume, c'est le roi qui s'occupe des citoyens. C'est pour ça qu'il te dit, ne t'inquiète pas. Moi, je sais ce que tu as besoin. Je connais tes besoins. Je connais tes faiblesses. Ça, c'est le royaume. Et ça qui pris un petit parti, parce qu'il a pris la langue, les valeurs, mais le royaume, c'est tout. Alors, aujourd'hui, Jésus est venu à répartir des passeports pour tout le monde, pour entrer dans le royaume des cieux et sa justice. Amen, mes frères.